c'est notre rendez-vous pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Alors, pas d'invité, par contre, on va évoquer les écritures dessinées du monde entier. Alors, il y aura de l'illustration, des ouvrages critiques, du manga, du manhwa, du comics et puis du roman graphique francophone. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors Marin est en régie, vous l'avez entendu. La musique, eh bien, c'est une sélection qui vient plutôt de l'Asie avec quatre morceaux, quatre groupes. Il y aura Hedgehog qui est un groupe chinois. Darker Than Black Opening, Seiyuki qui eux sont japonais et puis The Who avec leur morceau Black Thunder, qui est un groupe mongol. Je vous conseille d'avoir les oreilles bien attentives pour ces musiques. Commençons tout de suite avec le 1 XL, qui est le principe des hors-séries, avec une grande image, une affiche, qui se déploie lorsqu'on ouvre le journal. C'est un journal qui n'est pas qui est plié. Et je souhaitais vous présenter le 1 parce que c'est un journal qui fait une place importante au dessinateur. Vous vous rappelez, Aurel, dans son dernier pamphlet sur Charlie quand vous voulez, eh bien, évoquait la paupérisation des propositions pour les dessinateurs par les différents patrons de presse. Alors, le 1 fait quand même exception, puisque régulièrement, on a soit des grandes images, soit dans la série Repères, c'est un récit, une écriture dessinée. Là, par exemple, dans ce XL, eh bien, il y a François Hollis-Lager qui va écrire sur un défi de 5 ans. Et puis, dans le numéro de cette semaine, c'est Joren Gerner qui va réaliser cette série Repères. Alors, dans ce dernier numéro XL, c'est un numéro sur Notre-Dame, une renaissance avec tout un dossier. C'est le principe de ces numéros, c'est d'avoir un ensemble sur un thème et l'affiche au centre même du 1. Donc c'est vraiment un très grand format quand c'est déplié. C'est Françoise Keuten qui l'a réalisé, auteur-dessinateur des Cités Obscures. C'est un artiste qui a de très nombreuses cordes à son arc. Il est aussi concepteur d'expositions. Il a vraiment une œuvre assez exceptionnelle. Le 1, alors le 1 XL, XXXL, donc c'est un hors-série qui est au prix de 7,90€. Sinon le 1, puisque c'est un hebdo, c'est 3,50€ par semaine. Et on commence avec la première virgule de l'émission, c'est-à-dire les Shadocks. Alors, j'ai rarement présenté des livres critiques, plutôt, qui faisaient une présentation de la bande dessinée. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter les cahiers de la BD. Alors, même si le titre est un peu crispant, cette utilisation du du raccourci BD avait été dénoncé par Jean-Claude Forest dans un numéro d'À suivre où il évoquait une façon de l'utiliser qui était plutôt péjorative et qui appuyait et insistait sur le fait que la bande dessinée n'était pas une littérature suffisamment noble pour qu'elle puisse être considérée. C'est pour ça qu'il était très attaché au terme « bande dessinée ». Pour ma part, je suis tout à fait dans cette lignée de Jean-Claude Forest. Je reprends à mon compte cet avis. Et c'est pour ça que ce terme de cahier de la BD m'écorche un peu. Alors par contre, c'est un cahier, donc c'est une revue qui est un trimestriel. Donc sur le dernier numéro de janvier à mars, il y a un entretien avec Émile Ferris pour le deuxième tome de « Moi ce que j'aime, c'est les monstres » et aussi également une présentation du dernier livre de Philippe Squarzoni, « Zone critique ». Et il y a un grand dossier dessiné sur Eduardo Pazienza, qui est Andrea Pazienza, qui est un auteur italien qui a fait partie de ce mouvement important qui était visible et que l'on pouvait découvrir dans la revue Valvoline. Il y avait eu un recueil de différentes histoires avec une présentation des auteurs aux éditions Magic Strip. C'était il y a très longtemps. Mais on avait ainsi pu découvrir Andrea Pazienza. Alors, il y a une édition qui arrive et qui va permettre de retrouver cet auteur marquant, puissant, libre et qui a une dimension qui mérite tout à fait que l'on s'attarde et que l'on s'attache à cet auteur. Les cahiers n'hésitent pas à dire le génie oublié de la BD italienne. C'est donc Charlotte Édition qui est l'éditeur de ces cahiers de la BD qui va éditer un livre sur Andrea Pazienza. Et donc, c'est à découvrir chez votre libraire. Alors moi, je ne l'ai pas encore. Je ne peux que vous le citer à travers le livre, à travers l'article des cahiers. Mais je vais m'enquérir de tout cela pour vous en parler un peu plus parce que c'est un événement important. Les cahiers de la BD numéro 29 avec le dossier sur Émile Ferris. Pourquoi Émile Ferris est-elle fascinante? C'est donc le numéro de janvier à mars 2025. Le prix, c'est 14 euros. Le nombre de pages, c'est pas mal. Je vais vous trouver ça tout de suite. Voilà, on est autour de 172 pages. Et deuxième virgule. Alors, on va parler manga, parce que c'est quand même un événement littéraire. Alors, c'est plus un événement, parce que maintenant, ça fait quand même un très grand nombre d'années que les mangas sont arrivés en Europe. Il y a un peu plus de 40 ans, il y avait un Japonais qui vivait en France et qui avait publié une revue qui s'appelait « Le cri qui tue » et qui a été une façon de découvrir les mangas avec des auteurs comme Tatsumi. Et puis, assez rapidement, on a eu la publication de Dragon Ball Z, et là, le mouvement était lancé. C'était un mouvement de fond, puisqu'aujourd'hui, les mangas représentent une part importante de l'édition, même si les grands personnages, les grandes figures de la bande dessinée classique peuvent tirer à des millions d'exemplaires, mais ils sont très bien classés dans le top 10. Alors, le manga est vraiment spécifiquement japonais. Le manhwa est, lui, coréen. Les Chinois qui ont commencé à développer toute une série de bandes dessinées avec le nom précis de Man Liua. Alors, auparavant, la bande dessinée chinoise était une bande dessinée d'État avec des auteurs qui pouvaient être salariés. Et il y a eu quelques très belles expositions dans les années 80 à Beaubourg qui présentaient les différentes facettes de cette bande dessinée. Et il y a vraiment eu de très, très belles choses. Donc là, je voudrais vous évoquer... Alors, avant de le faire, je voudrais présenter le test de Bechdel. Alison Bechdel était... parmi les trois nominés pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour sa dernière édition du mois de janvier. Et cette autrice a fait un test pour avoir un angle de vue critique sur les récits de fiction. Son test permet de mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins ou au contraire la sous-représentation de personnages féminins dans une œuvre de fiction. Alors bien sûr, on pense au cinéma, mais ça peut être aussi la bande dessinée, le comics, les mangas. Ça peut être également la littérature. Alors, elle a donné trois règles qui sont simples et qui permettent d'avoir une meilleure lecture, une meilleure compréhension de ce que l'on lit quand on fait une œuvre de fiction. Et on peut aussi ainsi en percevoir toute l'originalité. Alors, ces trois règles, eh bien, il faut qu'il y ait au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Ça paraît pas énorme, mais pourtant, il faut qu'elles parlent ensemble. Il faut qu'elles parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Ces trois règles simples, eh bien, lorsque vous les appliquez à des œuvres de fiction, et si on remonte un peu dans le temps, en découvrant ou en lisant, en regardant une œuvre plus ancienne, eh bien, on peut avoir quelques surprises très étonnantes. Alors, appliquons ce test de Bechdel aux différents livres que je vous propose aujourd'hui. Alors commençons par un manhwa, donc c'est une bande dessinée coréenne qui est Mobile Suit Gundam Unicorn. Alors c'est le tome 1, le tome 2 est paru, c'est une série qui comptera 9 volumes. Le scénario est signé Harutoshi Fukui et l'adaptation de Kozo Omori. Alors c'est Harutoshi Fukui est un romancier qui a eu de nombreux prix, qui a vu trois romans adaptés au grand écran, et le dessinateur qui a commencé sa carrière avec la supervision de Tsuburaya Productions, et puis qui a donc développé cet univers de Mobile Suit Gundam Unicorn. Le récit. Après plusieurs conflits opposant la Terre et ses colonies, la paix semble revenue, en apparence seulement, en coulisses. De sombres machinations s'opèrent autour de la mystérieuse boîte de Laplace, un objet qui pourrait renverser le cours de l'histoire. Sur fond d'un complot vieux de près de 100 ans, le spectre de la guerre ressurgit. Alors, c'est un manga qui a vite de l'ampleur. On est sur un volume qui a pratiquement 400 pages. Alors, on est dans une écriture qui est plutôt classique. On est dans une sorte de manga qui reprend des fonctionnements assez assez récurrent, très fréquent, avec notamment cette façon d'accentuer toutes les parties d'action avec ces traits cinétiques pour essayer d'appuyer la puissance. Cette façon de forcer dès qu'il y a une explosion, l'utilisation d'onomatopées ou quand on puisqu'on a maintenant les traductions des onomatopées, on a un grand crash, eh bien l'onomatopée couvre pratiquement l'image. Donc il y a après la représentation des personnages où on a ce trait de crayon qui est plutôt à la serpe, avec ce trait un peu tendu, cette façon de représenter les personnages assez classiques et cette façon de tracer les yeux qui est celle que l'on trouve dans énormément de mangas. Alors, il y a aussi un autre point qui permet et qui amène à se poser la question, comment ça se fait que les mangas, les manhwas aient autant de succès. Alors, il y a, je pense, une piste très forte qui est l'exotisme. C'est une littérature dessinée qui est arrivée donc dans les années 80, qui a pris énormément de succès, qui a eu des séries phares qui étaient les plus importantes publiées au Japon. Et donc, ces séries ont permis de fidéliser un certain nombre de lecteurs et d'apporter à ces lecteurs cette part d'exotisme qui fait que les jeunes lecteurs se sont appropriés cet univers dessiné pour en faire le leur, comme dans les années 60, quand le rock'n'roll est apparu, il y a eu un décalage avec les autres musiques, et les jeunes de l'époque se sont appropriés littéralement la musique rock et se sont démarqués ainsi des générations précédentes. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un foisonnement de séries et que donc la publication de séries aussi importantes que par exemple Akira, Dragon Ball, One Piece ou autres, il y en a eu de nombreuses, de très bonne qualité, eh bien, est peut-être un peu plus difficile. Donc dans ce récit, il y a des moments tout à fait convaincants, mais on est quand même dans une façon très traditionnelle de traiter le récit, de le mettre en image, avec très souvent ces cases avec des images à bord perdu ou au contraire des cases qui vont, parce que c'est une action, on va les mettre avec des formes plutôt bizarroïdes. Alors il y a des moments où on a des personnages avec des costumes qui sont un peu inhabituels, une façon de se référer à une sorte de 20e siècle, de début du 20e siècle, qui va contraster avec cette vision du futur avec des machines hyper puissantes. Alors, il y a des lecteurs qui adorent ça. Eh ben, pas de problème. Mobile Suits, une dame, une corne, les tomes 1 et 2 sont parus donc de Harutoshi Fukui pour le scénario et Kozo Omori pour le dessin. Donc c'est publié par les éditions Dupuis Vega. Beaucoup d'éditeurs se sont mis à faire du manga. C'est traduit par Kevin Stocker, le lettrage est de Vibrant Publishing Studio. Les 396 pages sont au prix de 15,50 € et ça a été imprimé en Italie. Musique.
Full of cold, bats are wild.
Alors, une petite rectification, parce que, en fait, Mobile suite Gundam Unicorn, le comic book version, c'est un manga, c'est vraiment japonais. J'ai eu ma langue à fourcher. Poursuivons avec un autre manga, mais cette fois d'une autrice, et qui est vraiment qualifié de manga underground. C'est Doro Edoro. C'est une publication qui a été faite au Japon de 2000 à 2018. Trois éditeurs se sont succédés. Il y a eu même une série d'animation. 23 volumes étaient parus. Au manga, au Japon, c'est très fréquent que le manga soit suivi d'une série animée. Et on a, par exemple, pour Miyazaki, alors on a eu le phénomène inverse, on avait d'abord le dessin animé, puis après on a eu une version adaptée du dessin animé à partir des images du dessin animé qui étaient montées comme un manga. Donc on a vraiment eu un croisement des supports qui est très fréquent au Japon. Alors, Doro Edoro est une série qui a déjà été éditée en France. Les 23 volumes sont parus. Et donc là, on a le début d'une sorte d'intégrale à raison de 2 volumes par tome. L'autrice est Ku Hayashida. Alors, je vais vous lire le... Je vais vous lire le résumé. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Caïman, humain amnésique à tête de reptile, part à la traque du mage qu'il a transmuté. Doté d'une force impressionnante et déterminé à retrouver son identité perdue, il est accompagné de Nikaido, une jeune femme propriétaire de son restaurant de gyoza favori. Le chef des mages est quant à lui bien décidé à en finir avec ce reptile qui massacre un à un tous ses sbires, aussi lance-t-il des tueurs à ses trousses. Alors, vous l'avez deviné, imaginé, l'univers post-apocalyptique de Doro Edoro est vraiment post-apocalyptique. Il est partagé entre deux dimensions qui sont hermétiques, Hol, la cité des charges des humains, et le monde des mages, qui peut voyager dans Hol via des portes magiques. Et c'est là que Caïman s'est fait piéger par un mage qui l'a transmuté. Et ça donne un personnage qui, dès les premières cases, va apparaître avec une tête de caïman. Et tout de suite, il boulotte, il prend un type par la tête et il l'enferme dans sa gueule. Et la petite surprise, c'est qu'au fond de la gorge de caïman, il y a quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un, il y a une tête qui apparaît. Alors, ce qui est un peu réjouissant avec Ku Hayashida, la dessinatrice et scénariste de ce manga, c'est qu'il y a une sorte d'enthousiasme à faire ce récit complètement déjanté. Elle s'est créée une sorte d'espace où tout est possible. Donc les mages, comme tous les mages, ils ont des pouvoirs plus ou moins finis, des représentations qui sont complètement libres, et la couverture donne tout de suite le ton, parce que Caïman, à plusieurs reprises, va avoir un masque, une sorte de masque à gaz, et il a des allures assez terrifiantes, et ce personnage, en fait, qui est à l'intérieur de sa gueule, c'est un type qui n'est pas très vivace, hein, il est même plutôt mort. Et donc, c'est complètement ahurissant. Alors, le personnage le plus sain, on va dire, de cette série, eh bien, c'est Nikaido, qui est une jeune femme restauratrice, qui a manifestement fait des... des plats spécifiques qui enthousiasment Caïman et qui sont d'une très grande qualité. Et donc, en fait, dans beaucoup de séries comme ça, où il y a une critique de l'homme, eh bien, les personnages féminins sont tout à fait normaux. Et puis, les personnages masculins sont très vite barrés, sont plutôt vilains, sont méprisants et méprisables. Et on va avoir cette opposition de représentation. Alors c'est un procédé qui a déjà été employé, par exemple, par Altan, qui, avec Ada dans la jungle, tous les personnages masculins avaient des trognes, et puis les personnages féminins, quant à eux, étaient tout à fait normaux et avaient une plastique très agréable. Donc là, il y a un parti pris dans la représentation qui est intéressant. Une autre particularité, c'est que la dessinatrice Kyu Hayashida a une approche du dessin qui n'est pas du tout conventionnelle et qui fait une rupture, par exemple, avec celle du manga précédent, Mobile Suit Gundam Unicorn. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'avoir ce trait qui est toujours travaillé un peu comme une sorte de recherche au crayon avec une somme de traits et puis qu'on aurait passé au scan pour pouvoir le noircir, mais l'utiliser avec cette énergie du dessin. Il y a une volonté d'avoir dans l'image un côté sale, crade, qui va donner un ton plutôt trash à cette histoire. Il y a donc un dessin qui est vraiment chargé en traits, et par exemple, le visage de Nikaido, au milieu de cet ensemble, va être au contraire beaucoup plus lisse, beaucoup plus agréable, alors que les autres vont avoir vraiment des trognes également. Il y a un personnage, sa tête c'est un cœur, c'est un mage, alors tout est possible, et il y a donc des surprises constamment tout au long de ce récit. Il y a une façon aussi très tenue de porter et de conduire ce récit qui fait qu'on n'a pas tant de délire que ça dans la mise en scène. Il y a même parfois quelques trouvailles assez étonnantes, mais il y a cette volonté de ton et cette liberté d'écriture qui en fait un manga tout à fait à part. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'essentiel de la production de manga, mais par contre, c'est une façon de découvrir le manga underground qui se tient. Ces intégrales constituent le KO Édition, et c'est une autrice qui également a fait une autre série, Dead Arc, qui est une série en cours et qui ne manque pas de trash également. Les 316 pages de ce manga sont au prix de 20 euros. C'est publié par Soleil Manga. La traduction est de Sylvain Chollet et le lettrage de Anne de Hars. C'est écrit et dessiné par Kyu Hayashida, qui est donc une mangaka japonaise. Et le livre a été imprimé en Italie.
Go!
Alors, restons en Asie. Avec, alors cette fois c'est un manhwa. L'édition originale de ce livre a été publiée en Corée en 2022. En France, c'était l'année dernière, en octobre. J'avais pas trouvé le moment pour présenter ce livre intitulé Bonbon, qui est un récit complet de Eugene Chung ou Chung Eugene. Les Japonais, par exemple, placent systématiquement le nom en premier, donc il y a eu parfois des confusions, il y a même, c'est un peu piquant pour eux, c'est un peu désagréable d'entendre leur prénom en premier, alors que bon, pour les Manois, c'est moins catégorique, pour la Corée également donc. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce manhwa, déjà, va se lire dans le sens habituel. Les deux précédents mangas se lisaient dans le sens original, c'est-à-dire de droite à gauche, dans le sens inverse de notre lecture occidentale. Et là, Bonbon se lit comme n'importe quelle œuvre francophone ou occidentale d'une manière plus générale. Alors, lorsqu'on feuillette, il y a tout de suite un point important à souligner, qui est déjà la présence d'animaux qui vont être doués de paroles. Et puis, il y a une sorte de mise en page qui a l'air très libre, très inhabituel, puisqu'on va avoir parfois un cadre d'image beaucoup plus réduit. Il y a d'autres mises en page qui sont avec une bande verticale d'images, un autre ensemble avec des images, des grandes images, avec une seule image. Et donc, il y a une composition qui est très libre. C'est aussi une femme qui a fait cette œuvre, une dessinatrice, donc Eugene Chung, qui donc réalise avec Bonbon sa toute première bande dessinée, écrite et illustrée. Le récit. Deux sœurs adoptent chacune un petit chien, pardon, dont le petit Bonbon. On a eu le décalage dans les histoires, c'est le grand écart. Un amour se construit, une confiance s'installe et le bonheur suit au rythme des saisons et des anniversaires. Mais vient le jour où Bonbon va devoir partir et la petite fille se voit alors confrontée à la difficile réalité du deuil et de la séparation. Est-il possible de se préparer au départ de quelqu'un qu'on aime ? C'est la question qu'essaye de traiter l'autrice à travers le récit touchant et plein de tendresse de Bonbon. Et c'est tout de suite ce qui va apparaître. Il y a donc dans le dessin une façon déjà de représenter les animaux qui est très attachante. Une façon de leur donner une présence, déjà en leur attribuant à certains moments des paroles, et puis à d'autres, il y a cette relation entre les uns et les autres, entre les animaux et les enfants, les humains, qui va être décalé avec ces moments où les chiens seuls eh bien, peuvent penser. Donc, l'idée pour l'autrice, c'est vraiment déjà de créer ce sentiment entre les animaux et les enfants. Alors ça, c'est important, parce que c'est facile presque, on dirait, il y a tellement d'empathie qui peuvent se créer entre l'un et l'autre que on imagine la mise en scène. Mais la bande dessinée n'est pas forcément si à l'aise avec ça pour que ce sentiment puisse vraiment prendre sa place, s'épanouir au moment de la lecture. Donc, en fait, la petite fille est très attachée à son chien. Et sa sœur également au sien. Donc Bonbon va vite prendre une place dans l'histoire de ses petites filles, mais aussi dans le récit lui-même. Et en fait, la composition et la mise en page, qui est donc très variée, qui n'est pas basé sur le même principe d'une page à l'autre, mais qui va avoir toute sa cohérence parce qu'il y a des règles qui sont un peu immuable avec la mise en page de bande dessinée, cette inscription par exemple des cases dans un rectangle, même si là on a des variations, des cases qui manqueraient, qui feraient que on aurait des blancs à l'intérieur de ce rectangle, mais ce rectangle est toujours visible. Même lorsqu'il y a principalement une bande d'image, il y a toujours ces repères et cette façon très facile pour le lecteur de se déplacer à l'intérieur de ces pages. Il y a même l'utilisation à certains moments, dont une page par exemple, où la petite fille va dormir avec bonbon, et il y a une répétition d'une même case qui va composer une sorte de grande image qui serait composée de 25 petites identiques avec le même cadrage, avec pratiquement le même dessin, ces bonbons qui va faire la variation et qui va à des moments ouvrir les yeux, s'endormir. Et c'est très, très tendre. Très vite, c'est très tendre. Et c'est aussi très tendre parce que l'autrice a choisi d'utiliser une bichromie, c'est-à-dire du rouge, du bleu. Le trait de contour est un bleu un peu appuyé. Et puis, il y a les quelques variations avec une teinte de rouge plus moins saturé, donc qui va plus tourner vers le rose, et des bleus qui le seront également moins, avec des bleus clairs. Mais le fait d'avoir que ces deux couleurs fait que il y a une douceur qui est dans l'image et qui fait que le lecteur s'installe dans cette atmosphère avec beaucoup de facilité. Tout ça, bien évidemment, pour que le moment de la mort, quand il va arriver, il prenne une intensité. C'est la grande réussite de Bonbon, c'est d'avoir donné à ce moment, à cet événement, une importance qui découle directement de cette relation très tendre qu'il y a entre la petite fille et son chien. C'est pas si simple que ça, parce que très souvent, ce n'est pas abordé de manière aussi intense. C'est ce qui fait la force de ce bonbon, c'est l'intensité des sentiments exprimés et ce trait qu'a la scénariste et dessinatrice Eugene Chung, qui est un trait épais, appuyé, avec une irrégularité constante, qui ne ferme pas forcément les surfaces, mais qui va vraiment rester constamment vivant parce qu'il n'est pas dans la recherche d'une régularité, mais bien d'une intensité. Et elle est apportée par cette irrégularité du tracé, mais avec cette présence, parce qu'il peut être suffisamment épais. Il y a vraiment une lecture très agréable, c'est une surprise, et de pouvoir l'intégrer ainsi dans une autre vision de la bande dessinée asiatique qui montre ainsi l'étendue des mangas, manhwas, manhua, avec des œuvres extrêmement différentes. Bonbon de Eugene Chung est publié par les éditions Delcourt. Les 88 pages de ce récit sont au prix de 16,50 €. La traduction a été assurée par Julien Laert et Estelle, et le lettrage par Estelle Quignon. Et donc, c'est un livre étonnant. Musique. Alors. Et oui, c'était Darker Than Black Opening. On va continuer avec une bande dessinée animalière. Alors, dans Bonbon, il y a des chiens qui sont représentés avec beaucoup de personnalité. Dans Corso, de Danilo Berut, il y a aussi de l'animalier, mais alors là, il n'y a que ça. C'est pas du tout des compagnons d'humains. C'est vraiment les principaux personnages de cette histoire. Alors, commençons par le récit de cette histoire qui a été publiée aux États-Unis par un dessinateur brésilien qui a beaucoup travaillé pour les États-Unis. Un petit rappel, en fait, on a beaucoup d'auteurs européens, sud-américains, qui travaillent pour l'édition américaine avec les grandes compagnies que peuvent être Marvel, DC, Dark Horse, Image et autres. Et donc, beaucoup d'auteurs qui acquièrent une popularité en reprenant, comme par exemple pour Danilo Berut, eh bien, il a pu reprendre des séries comme Deadpool. Il a dessiné Deadpool, Ghost Rider, Les Gardiens de la Galaxie, Venom. Et il y a toujours une volonté d'être auteur complet. C'est aussi un auteur qui a intégré le label de Frank Miller avec Ancient Enemy. Corso est une histoire animalière publiée en noir et blanc. Alors, les mangas précédents, donc hormis Bonbon, mais les deux mangas, Doro et Doro et Mobile Suit, étaient également en noir et blanc, mais avec quelques pages en couleur, puisque c'est très souvent le principe au Japon. Il y a des pages qui correspondent à un cahier, qui vont être répartis sur le manga et qui peuvent recevoir la couleur. Là, il y a vraiment un choix de la part de l'auteur brésilien de faire un noir et blanc. C'est pas si fréquent que ça, et c'est déjà à souligner. Alors Corso, ce récit animalier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un pilote, Corso, talentueux mais indiscipliné, de la République des Chiens. Après un combat spatial contre les forces de la monarchie des chats, il fait naufrage sur une planète inconnue. Pour survivre et poursuivre sa mission, le pilote solitaire est amené à rencontrer les habitants de ce monde, dangereux. Des chats qui ne semblent pas savoir ce qu'est un chien et ne pas avoir connaissance de la guerre qui animait jusque-là les deux clans. Corso fait alors qu'une découverte va le stupéfier. Alors, c'est un format un peu plus grand que les comics classiques, et on est vraiment dans ce principe un peu de la colonisation, le vaisseau qui va s'écraser sur une planète inconnue, avec une sorte d'impérialisme flagrant qui anime le personnage de Corso, mais ça, c'est plutôt le début. Alors, très vite, il va découvrir qu'il ne peut pas repartir et il va devoir se confronter à cette planète, et il est arrivé en plein désert. La grande qualité du récit de Danilo Berut, c'est d'avoir utilisé ce principe de la bande dessinée animalière basée sur deux espèces animales plutôt antagonistes, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, chiens et chats ne sont pas forcément de grands amis et facilement, ils peuvent s'opposer. Un autre point important, c'est que justement, Corso, qui va être le personnage que l'on va suivre, qui est le héros principal, c'est lui qui donne son nom au récit, et est un personnage qui va avoir une évolution, qui va ne pas rester dans ce rôle qui lui est assigné dès le départ. Là, il est sur une planète inconnue, échouée, et il doit donc composer avec l'environnement, avec ce qui se passe, et il va, au fur et à mesure que il avance dans ce désert, découvrir des paysages très différents, des espèces animales qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a pu vivre, et en tout cas avec son mode de représentation. Il y a une inventivité certaine. C'est un personnage qui va prendre des notes dans un carnet, dessiner, commenter, donc pouvoir ainsi évoquer cette planète inconnue. Et donc ce carnet va trouver une représentation dans le livre et montre ce qu'on peut faire d'un carnet qu'on prendrait avec soi pour pouvoir dessiner ce qui nous entoure. Il y a donc quelques trouvailles d'animaux extraterrestres qui est pertinente, et notamment une sorte de dragon qui a vraiment une forme atypique. Le repère, par exemple, de la tête qui est très souvent utilisé et qui fait qu'on a des personnages souvent avec cet anthropomorphisme pour faciliter en fait la lecture. Là, on a des personnages qui n'ont pas d'yeux, qui ressemblent pas trop à ce que l'on connaît. Et puis toute une partie qui va être la seconde partie du récit, après avoir traversé le désert, une jungle, affronté donc ce dragon, il va être recueilli par des chats qui donc vont l'accueillir parce que c'est lui qui a ramené la langue du dragon et qui est la réussite d'un combat sacré. Et à partir du moment où on arrive à ça, eh bien, on est obligatoirement admis chez les chats. Donc il y a, et c'est tout l'intérêt de ce livre, une rencontre de l'altérité, de la position de Corso face aux chats, face à des réactions qui peuvent être impulsives. Et c'est bien amené, bien écrit, bien dialogué et avec des situations et des rebondissements qui ne manquent pas du tout de charme. Le dessin de Danilo Berut est un dessin qui va utiliser une trame, qui est un dessin assez vif, avec là aussi une sorte de vie dans le trait, de plein et de délié, ça peut être un trait de plume assez appuyé qui va donner aussi une tension à ce dessin qui va très bien fonctionner avec ce peuple de chats qui a accueilli par exemple Corso. Et on a vraiment beaucoup de scènes où le dessinateur va s'attacher à des décors pour que le contexte soit suffisant, sans les appuyer, juste pour donner un espace, pour montrer une façon de vivre qui peut être décalée, par exemple, par rapport à quelqu'un qui arrive en vaisseau. Il y a dans la représentation des chats, dans les expressions des animaux, là aussi une attention qui est et qui fonctionne. Les regards, leur importance dans les visages, un peu ce qu'on peut avoir avec un chat ou un chien. Et puis, il y a quand même une réserve, c'est sur la façon de gérer les scènes de combat. Il y a dans les cauchemars de Corso des moments de combat dans l'espace avec différents vaisseaux, ou au contraire, dans cette réalité, l'affrontement de bêtes sauvages qui peuvent menacer, par exemple, les jeunes enfants de ce peuple de chats. Là, il y a une dispersion où on a du mal à savoir où on est, comment placer les éléments les uns par rapport aux autres. Et c'est là où la bande dessinée, qui a un avantage énorme sur le cinéma, c'est cette facilité d'inventer des mondes, à cette difficulté de devoir, lorsqu'il y a des scènes de combat, par exemple, de bien localiser, d'avoir une géographie des lieux qui permette au lecteur d'être immergé dans cet univers. Mais en tout cas, c'est un livre qui, je pense, va réjouir beaucoup d'ados, mais pas que. Corso, ce récit complet de Danilo Berut, est publié par les éditions Soleil. 232 pages pour ce récit qui est vendu au prix de 20 euros. Le traducteur, la traductrice est Florence Wayne et le lettrage est assuré par le studio Charon. C'est tout. Musique! Bon, en fait, j'ai pas le temps de vous présenter la suite. J'avais prévu l'édition noir et blanc de Hellboy par Richard Corben et puis deux romans graphiques de Macchio. Alors ça sera pour demain matin. Et puis on retrouvera Hellboy la semaine prochaine. Et il y aura comme invité Mariam Neyam pour un roman graphique sur l'Ukraine. Étonnant. Bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.